La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui et élaborer, sur laquelle élaborer, c'est Satan peut-il lire dans nos pensées? Bien sûr, nous savons que l'adversaire est rugissant, qu'il cherche ce qu'il peut dévorer. Et frères et sœurs, dans nos batailles spirituelles, bien sûr, parfois nous donnons trop de crédit à Satan, nous le blâmons souvent en lui attribuant un pouvoir et une autorité qu'il n'a tout simplement pas. L'un de ces domaines, donc, concerne la question « Satan peut-il lire dans nos esprits? » Vous serez heureux d'emblée de savoir que la réponse à cette question est « non, il ne peut pas ». Cependant, cette simple réponse n'est pas suffisante. Nous allons considérer aujourd'hui les Écritures pour mieux comprendre ce sujet et aussi de quelle façon nous devons prévoir les tactiques et comprendre les tactiques de l'adversaire et comment nous en protéger. Je continuerai en disant, que sait Satan de nous? Pour mieux répondre justement à cette question, est-ce que Satan peut lire dans nos pensées? On dirait que oui, parfois. Nous devons comprendre que Satan, au fond, sait beaucoup de choses de nous. D'abord, nous allons voir qu'il y a toujours cette recherche, même chez nous, d'essayer de comprendre les pensées de l'autre, de pouvoir essayer de deviner ce que l'autre pense vraiment. Alors, nous allons commencer avec un proverbe, le proverbe 23. Nous allons prendre à partir du verset 6. C'est un proverbe que nous avons utilisé à l'occasion dans l'Église de Dieu. Mais voyons le contexte d'abord, parce que c'est un contexte de tension. C'est un contexte où un enfant de Dieu pourrait être coincé dans une situation. Proverbe 23, donc je lis à partir du verset 6, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. » Et regardez le verset 7 en parlant de cette personne qui semble nous accueillir chaleureusement par un repas. Il décrit en disant, « Car il est comme les pensées de son âme. » Autrement dit, grâce au proverbe, grâce à la parole de Dieu, nous découvrons que dans une certaine situation, la personne devant nous n'est pas ce qu'elle paraît vraiment, mais elle est selon les pensées de son âme. Et quelles sont ses pensées? Il explique, « Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Alors, il y a un comportement extérieur qu'il projette. Il semble que ce soit favorable envers nous, mais regardez que le proverbe nous dit que lui pense en fait différemment de la façon dont il agit et le mot aussi qui se rapproche des pensées de son âme tout de suite après, c'est son cœur. Son cœur n'est pas avec toi. L'intérieur, ici, autrement dit, la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas nous fier aux apparences. Une personne peut agir comme si elle veut notre bien, mais la réalité intérieure de la personne est tout autre. Et au fond, si nous, on connaissait les pensées intérieures de notre vis-à-vis, nous pourrions voir ici que le cœur contredit les paroles et les actions. Et nous vivons ça constamment, n'est-ce pas, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit avec le monde, que ce soit parfois même avec des amis. Parce que Dieu nous dit, autrement dit, si nous connaissions vraiment les pensées de l'autre, nous pourrions modifier notre propre comportement dans une telle situation. Regardez la suite des versets 8 et 9 maintenant. Autrement dit, si tu connaissais les pensées de la personne qui t'a invité, voici la conséquence, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Et il continue, ne parle pas aux oreilles d'un insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Autrement dit, nous serions à ce moment-là conscients qu'il n'est pas à propos de manger avec une telle personne et de partager ce qui nous est le plus cher. Parce qu'au fond, la personne n'a que mépris pour nos paroles. Et ça, bien sûr, reportons ça maintenant toujours sur la question, nous aimerions connaître les pensées des autres et nous pourrions à ce moment-là agir en conséquence. L'adversaire ne peut pas connaître nos pensées, mais il peut connaître beaucoup sur nous. Il connaît nos tendances, il connaît nos faiblesses, il connaît les domaines de tentation auxquels nous pouvons être enclins. Et ce type d'information qu'il connaît sur nous ne vient pas du fait, encore une fois, que Satan peut lire dans nos esprits, mais parce qu'il est un maître dans l'étude de notre comportement. Satan ne peut pas lire, frères et sœurs, ce qui est dans notre esprit, mais il peut voir ce que nous faisons. Il analyse les choix et les décisions que nous prenons. Et s'il doit nous attaquer, il crée son plan d'attaque en fonction des domaines de notre vie qu'il a vu jusqu'à maintenant par notre comportement et nos choix quotidiens où nous sommes le plus vulnérables. Alors, nous allons voir un exemple, un passage bien connu pour comprendre un peu comment Satan nous approche, comment jusqu'à un certain point il nous connaît et que pour ça, il n'a pas besoin de lire dans nos pensées. Il va y aller selon l'observation qu'il a de nous. Il y a très peu d'endroits dans la Bible où on voit les tactiques, on pourrait dire, profondes de l'adversaire. On voit souvent plutôt seulement ses décisions. Mais voyons le récit connu de Genèse 3. Versets 1 à 5, nous allons voir dans l'ambiance de ce verset-là que l'adversaire va utiliser de pression, va utiliser ses tactiques. Maintenant, le verset 1 de Genèse 3 dit ceci, « Maintenant, le serpent était plus rusé que n'importe lequel des animaux sauvages que le Seigneur Dieu avait fait. » Alors, il semble que ici, l'adversaire se dissimule dans cet animal-là qui, bien sûr, pour au niveau de Adam et Ève qui viennent de découvrir le monde animal, bon, c'en est un autre parmi tant. Et voici qu'il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne dois pas manger d'un arbre dans le jardin? » Alors, Satan ici connaît, bien sûr, les ordres que Dieu a donnés à Adam et Ève, il connaît la pensée de Ève, qu'elle a une certaine information concernant les arbres dans le jardin. Il la connaît très bien, en fait. Mais il pose une question comme pour la brouiller un petit peu, dans un sens, sa compréhension. Alors, la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits des arbres dans le jardin, mais Dieu a dit, vous ne devez pas manger de fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin et vous ne devez pas le toucher ou vous mourrez. » Alors, il semble que Ève va quand même donner une réponse assez exacte de l'information qu'elle a reçue, mais je crois que je sens déjà, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, une certaine anxiété chez Ève qui se sent comme un peu intimidée. Ça, c'est mon impression. Mais regardez que, bien sûr, il va répliquer à ce que la femme va donner. Autrement dit, il l'a amenée sur son terrain à lui, elle explique et elle a dit que finalement, vous ne devez pas le toucher ou vous mourrez. Alors, le mot que l'adversaire va transformer est le dernier. Tu ne mourras. « Certainement pas, dit le serpent à la femme, car Dieu sait, Dieu a une connaissance que toi tu n'as pas, que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, Dieu vous cache quelque chose. Dieu, au fond, dans un sens, il vous aime, mais dans un autre, il ne vous aime pas assez parce qu'il vous cache quelque chose. Il ne veut pas tout à fait partager sa connaissance qu'il a du bien et du mal. Alors, vous êtes au courant donc de cette histoire concernant la rupture de l'homme avec son Créateur. Et il y a une chose à propos de Satan lors de cette rencontre qui nous aidera à apprendre un peu plus sur lui et à révéler si Satan peut lire ou non dans les esprits, ou plutôt comment il procède. En fait, la question doit être rephrasée. Satan peut-il lire dans nos pensées? Réponse non. Peut-il influencer nos pensées? Alors là, la réponse est un oui. Satan ne peut pas lire, mais il peut influencer. Alors, dans cette rencontre avec Ève, rien n'indique que Satan puisse lire dans les esprits. Il y a cependant toutes les indications que Satan peut influencer les pensées. Et dès l'ouverture de cette conversation, nous avons vu qu'il a posé une question pour connaître plus l'intention ou la stabilité émotionnelle, on pourrait dire, de Ève. Alors, le but en posant la question était simplement de commencer à influencer les pensées et les sentiments d'Ève. Ce n'est pas inhabituel, hein, frères et sœurs, car l'ennemi utilise toujours ce genre de tactique aujourd'hui. Il veut et peut nous bombarder de questions dans le seul but d'influencer nos pensées. Voici quelques exemples de questions qui peuvent nous arriver, n'est-ce pas, dans notre vie quotidienne, et qui seraient, dans un sens, un indice que l'adversaire essaie d'influencer nos pensées. Exemple de réflexion. Penses-tu que Dieu t'aime toujours après ce que tu as fait? Autre pensée. Tout le monde obtient du crédit et de la reconnaissance. Ne mérites-tu pas la reconnaissance aussi? Autre pensée. Cette personne est chrétienne et elle le fait. Alors, il doit être acceptable pour moi de le faire. Autre pensée. Tu sais ce dont tu as vraiment besoin, alors n'est-ce pas le temps d'aller le chercher? La liste de ce type de questions peut s'allonger, mais elles sont toutes conçues pour influencer nos pensées et susciter, j'ajoute, frères et sœurs, susciter en nous des émotions troubles. Lorsque ces questions apparaissent dans notre esprit, il peut sembler que Satan sait lire dans nos esprits. Mais la vérité est qu'il répond à nos modèles de raisonnement démontrés par nos comportements. Rappelons-nous donc que Satan n'est pas un lecteur d'esprit, mais un influenceur des pensées. Allons à Proverbe 4 maintenant, s'il vous plaît, verset 20. Pourquoi est-ce important pour lui d'influencer nos pensées? Souvenons-nous que le mot « cœur » et parfois même « âme » et « esprit » sont interreliés dans la Bible, sont parfois utilisés de façon interchangeable. Et voyons ça d'abord le Proverbe 4, verset 20, où un mot va être utilisé qu'on nous avons déjà vu, c'est le mot « cœur ». Proverbe 4, verset 20. D'abord, c'est bien sûr, vous avez compris que le livre des Proverbes, surtout les premiers chapitres, les 9 premiers chapitres, c'est comme un appel à notre cœur de la part de Dieu pour que nous puissions porter attention à l'influence de Dieu sur nos pensées. Verset 20. Mon fils, Bien sûr, ici, c'est sous la forme de proverbe de Salomon. C'est comme si, dans un sens, Salomon se rappelait des paroles de David envers lui et que lui aussi aimerait transmettre. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Et verset 21, deuxième partie, « Garde-les dans le fond de ton cœur. » Car ton cœur, autrement dit, c'est la vie pour ceux qui... Pardon, tes paroles, au fond, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et regardez le verset 23 maintenant. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'abord, il dit, oui, porte attention à mes discours, parce qu'au fond, ça va te nourrir. Mais il dit, ça, c'est parce qu'au fond, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois le garder en le nourrissant de mes discours, mais aussi en le protégeant de d'autres discours qui ne viennent pas de moi. La raison pour laquelle Satan cherche à influencer donc faire ça nos pensées est parce qu'il sait que c'est dans le cœur, à l'intérieur, dans notre vie intérieure, que s'exerce notre centre de contrôle. Tout ce que nous faisons vient des choses auxquelles nous pensons. Il n'y a pas de décision ou de choix que nous avons exercé sans y avoir d'abord pensé. J'accorde le fait que parfois, dans certaines situations, la pensée doit être très rapide. Par exemple, arrive une voiture alors que je suis en train de traverser la rue, je vois que je ne l'avais pas aperçue avant et je l'aperçois et à la dernière seconde, je m'arrête ou je fais un pas en arrière. Ça se fait presque instantanément. C'est bon, la pensée était rapide au point même que ça a été presque un réflexe, hein? Très, très utile. Mais nous savons que dans la vie ordinaire, certaines décisions, certains choix ont été exercés après qu'on a pensé un petit peu plus longtemps, d'un certain moment. D'autres décisions ont été appliquées après que nous avons pensé de longues périodes. Josué nous a parlé de longues épreuves parfois, ce qui amène aussi de longues périodes de réflexion. Enfin, il y a aussi ces moments ou ces décisions qui ont été prises avec des alternances dans notre mode de pensée. Hein? Une journée, on pense d'un côté, le lendemain, on pense dans le sens contraire, jusqu'à temps qu'on arrive, nous l'espérons, à avoir pesé les pour et les contre, et finalement, une pensée claire. Alors ici, la même chose est vraie de Adam et Ève dans le jardin. Satan a influencé leur pensée, du moins pour Ève, elle a examiné les options. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais elle a pris une décision basée sur quoi? Sur l'influence qui s'est produite sur ses pensées. Réfléchissons maintenant à ce que dit l'apôtre Jacques, le serviteur de Jésus-Christ, dans la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 14. Je vais maintenant la citer dans la version Louis II du 21e siècle. C'est important parce que dans cette version-là, ils vont tenir compte du texte grec dans le sens de l'emploi du mot que je vais souligner dans quelques secondes. Voyons la nuance, verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. » Alors, remarquez ici que le mot est « désir » dans le Louis II du 21e siècle. Je ne sais pas ce que c'est qu'en anglais, mais dans le Louis II ordinaire, nous avons le mot « convoitise ». Puis, verset 15, « le désir ». Lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Alors ici, la traduction va rendre le mot grec suivant. Je vais quand même prendre la peine de vous l'épeler. Il s'agit du mot « épitumia ». Alors, bien sûr, c'est un mot grec. Il s'appelle ainsi. E-P-I-T-H-U-M-I-A. Et si nous regardons les dictionnaires, ça veut dire « désir ». C'est un mot neutre. Comme le mot « cœur », comme le mot « esprit », comme le mot « âme », comme le mot « émotion », comme le mot « pensée ». Maintenant, tout dépend s'il est légitime ou non, s'il est bien ou mal, en accord avec la volonté de Dieu ou non. C'est le contexte qui va nous dire si le désir est bon ou mauvais. En fait, le désir a une valeur quand même en soi. Dieu n'a pas créé le désir dans l'homme sans but, pas plus qu'il a créé le corps sans but ou qu'il a créé la pensée sans but. Alors, qu'est-ce que le désir? C'est un mot qui pointe à une aspiration, à un élan vers quelque chose. En fait, c'est quelque chose de vital, le désir. L'être humain sans désir est paralysé, immobile, inutile jusqu'à un certain point. Un petit peu plus loin, regardons ce que Jacques dit au chapitre 2. Et là, il va utiliser un mot aussi qui est neutre en lui-même, dans un certain sens, qui est en grec, qui est psyché, hein, qui a donné naissance au mot psychologie, qui veut dire simplement âme aussi, ou nefesh en hébreu, c'est la même connotation ici. C'est l'idée d'une vie hein, qui est humaine dans le contexte et qui est à une certaine portée émotionnelle. Et il dit ceci, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. » On pourrait ajouter, « Comme le corps sans désir aussi est mort, ou comme le nefesh, sans qu'il y ait l'élément désir en lui, est comme mort, n'a pas d'activité, n'a pas de pulsion pour agir. » Le désir, toutefois, la Bible est claire là-dessus, doit être régi par Dieu. Nous apprenons cette gestion par les instructions que Dieu nous donne par sa parole écrite et par l'Esprit vivant qu'il a mis en nous. Nous avons vu que la parole de Dieu nous demande de porter attention en tant que fils ou fille au discours de notre Père et de les garder dans notre cœur. Voyons maintenant, frères et sœurs, la polarisation qui se produit, c'est-à-dire l'obligation de choisir que cette pratique amène aux enfants de Dieu. Nous lisons cela dans l'ensemble du passage de la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5. Nous allons l'apprendre dans son ensemble à partir du verset 13 et nous allons aller jusqu'au verset 17, parce que le principe est élaboré non seulement par Jacques, mais aussi par Paul, qui va nous expliquer le rôle du désir. Verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Donc, on a un appel, et cet appel-là est de manger de tous les arbres du jardin. Hein? Avec l'exception, l'interdit de celui de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, voici comment nous devons utiliser cette liberté. Nous devons en faire un libre choix de se rendre par l'amour, hein, en prenant la décision libre d'agir par amour, serviteurs les uns des autres. Intéressant ça. C'est par volonté et désir et soumission que nous, et amour que nous décidons de devenir serviteurs les uns des autres. Verset 14, car toute la loi, tout l'enseignement de Dieu, si vous voulez, est accompli dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si... Il va dire, mais attention là, vous peut-être pensez avoir des bonnes intentions justement, mais regardez les fruits par contre. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce qu'on peut s'imaginer, on peut avoir une certaine méconnaissance de ce que Dieu veut dire. Alors, avons-nous, frères et sœurs, permis dans la gestion de nos désirs, si nobles semblent-ils, par exemple, de la critique, du jugement vis-à-vis un de nos frères, une de nos sœurs, sans que la personne soit là pour répondre à nos émotions, à nos sentiments, à nos pensées. Nous vient une pensée, frère, ça arrive. Oh, cette personne qui m'a dit telle chose à l'Assemblée, probablement pensait ça. Ça m'a offensé, alors probablement c'était exprès. Prenez-vous le téléphone? Est-ce que je prends le téléphone en disant « J'aimerais vérifier si ma pensée est correcte ou pas. » Pas toujours, n'est-ce pas, frères et sœurs? On continue, on pense, on mijote. Et voyons finalement que la solution est vraiment, au verset 16, du moins, une ébauche de solution. Et je vais lire ici aussi en pointant sur le fait que le mot est « épitumia ». Okay? Je dis donc, marcher selon l'esprit, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous orientons nos pensées, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs, c'est le même mot là, « épitumia », contraire à ceux de l'esprit. Oh, attention, écoutons bien là. Le désir, selon qu'il est selon la chair, est contraire à celui qui est selon l'esprit. Donc, le problème n'est pas avec le désir. Le problème est avec d'où vient le désir. Dans quel but est-il orienté? Quelles sont les pensées qui l'accompagnent? Quelles sont les motivations intérieures? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Est-ce que le cœur est inspiré par l'esprit ou il est inspiré sans l'esprit? Car l'esprit en a, c'est-à-dire a des désirs. Donc, l'esprit a des désirs. Contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ainsi, ici, on peut voir la formule que Paul propose. En accentuant les désirs de l'esprit, nous montrons que nous ne voulons pas faire notre volonté, mais celle de Dieu. Or, la volonté de Dieu s'exécute dans la façon de Dieu de l'accomplir et non pas dans la façon qui nous semble bonne. Dieu est lumière et il désire que nous agissions à sa lumière et non selon nos ondes ombragées et nos frustrations, si justifiées soient-elles. Nous pouvons parfois avoir l'impression de prendre une bonne décision, mais c'est quand même dans un sentiment d'abord d'avoir traité injustement, dans certaines frustrations, que nous semblons arriver à prendre une bonne décision. Il est possible, frères et sœurs, que la décision peut avoir une partie de bonne, oui, mais elle ne sera probablement pas exécutée si certaines choses ne sont pas réglées dans notre cœur à la façon de Dieu, dans le temps de Dieu. Jésus a expliqué que les mauvais désirs viennent du cœur de l'homme. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Rechercher les désirs de l'esprit, rechercher la volonté de Dieu, rechercher la royauté de Dieu et sa justice. Rechercher les choses d'en haut. Vous avez remarqué, hein, que ce sont des phrases qu'on retrouve dans la parole de Dieu pour montrer qu'on doit sortir de notre petit monde intérieur pour aller vers ce qui est d'en haut. C'est une des expressions, il y en a d'autres, comme Jésus donné, chercher le royaume de Dieu. On pourrait aussi dire chercher la royauté de Dieu, parce que dans le grec, c'est la même chose. Rechercher la royauté, c'est-à-dire comment Dieu peut être notre roi dans ce que nous faisons. Ce genre donc de péché commence par un attrait ou un désir qui nous est propre. Il a parlé de propre désir. Propre dans le sens français de dire personnel. Donc, c'est un désir personnel. D'où vient ce désir? Nous le comprenons, il vient de notre cœur, de nos pensées. Par conséquent, Satan tentera d'influencer nos pensées, c'est-à-dire essayer d'agiter notre cœur. Et s'il peut le faire avec succès, cela nous conduira finalement à agir dans le sens que l'ennemi désire, dans le registre qui est le sien et celui de son univers angélique pervers. Regardons maintenant les outils au niveau du désir que l'adversaire se sert. On va voir la première lettre de Jean. La première façon que l'adversaire essaie de déstabiliser, bien sûr, c'est en faisant appel à ce que nous offre le monde, c'est-à-dire ce que l'on reçoit quotidiennement comme désir. Lisons la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 16, selon le texte original. Oui, et pourquoi je le fais? Parce que le mot est neutre, mais il y a un autre mot à côté qui, lui, ne l'est pas. Oui, tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair. Alors, on a traduit convoitise. Dans un sens, on ne se trompe pas. Mais on ne voit pas quand même qu'il y a un élément neutre, mais que c'est la chair qui peut le pervertir. Et le désir des yeux, même chose. Les images qu'on reçoit, qui viennent du monde physique, peuvent, bien sûr, être utilisées par l'adversaire. Et la vantardise de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Donc, ce qui vient du monde... Parfois, on a de la difficulté à le filtrer, mais c'est assez évident que depuis notre enfance, nous avons été bombardés constamment par des choses qui viennent du monde. Alors, l'adversaire connaît notre pedigree, si vous voulez. Il connaît notre curriculum vitae, si vous préférez, de comment nous avons accepté certaines choses du monde ou que ce n'est pas encore tout à fait clair dans nos esprits. Il va essayer de passer par là. Typiquement, quand nous tombons dans le péché, la sollicitation viendra sous l'une de ces catégories parce que ce sont les choses vers lesquelles notre chair gravite. Hein? Donc, le désir de la chair, le désir des yeux et la vantardise de la vie. Un autre élément que l'adversaire va utiliser, c'est l'appel à nos peurs. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Rapidement, vous connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà vu quand même l'allusion ici. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobre, autrement dit, attention, veillez là, hein, sur les désirs. Veillez sur leurs sources, vérifiez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Avez-vous remarqué que le mot rugissant, si le diable rugit ou si le lion rugit, c'est pour semer la peur. Vous allez dire, mais ce n'est pas bien intelligent de la part d'un lion de rugir. Alors, tout le monde va l'entendre et ils vont s'enfuir. Pas nécessairement. Vous savez qu'un lion, lorsqu'il rugit, peut paralyser l'adversaire, peut semer une émotion ou un mécanisme chez la victime qui fait qu'elle paralyse ou qu'elle devient confuse. Elle devient confuse. Alors, si le diable rugit, c'est pour semer la peur. La peur, comme vous savez, est mauvaise conseillère, hein, dit le dicton. Elle pourrait, si dans un certain, elle est bien gérée, faire l'effet opposé. Regardons Genèse 3, verset 8. Mais sachant que lorsqu'il y a peur, c'est qu'il y a faute quelque part. Il y a faute quelque part. La peur est mauvaise conseillère, hein? Voyons Genèse 3, verset 8. Ici, nous avons Adam et Ève après qu'ils ont suivi les pensées de l'adversaire. Ils ont subi son influence et ils se sont laissés emporter. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, Adam et Ève entendent la voix de l'Éternel Dieu. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Réaction de peur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Oui, Adam et Ève ont fait un faux pas. Ils ont péché. Oui, la crainte ici aurait pu être salutaire parce qu'au moins ils étaient en présence de Dieu. Dieu a montré, on le voit ensuite dans le texte, que Dieu voulait faire grâce. Il les habillait de façon noble pour couvrir leur nudité, c'est-à-dire leur vulnérabilité. Est-ce que Adam et Ève ont été assez lucides pour discerner l'amour de Dieu? Est-ce que ça les a poussés à retourner à Dieu? Il semble que non ici. Mais non géré ou mal reconnu, la peur peut elle-même susciter davantage de faux pas. Et l'adversaire cherchera à faire appel à nos peurs parce qu'il sait que lorsque la peur entre en jeu, l'anxiété et l'inquiétude augmentent et souvent nous nous éloignons de ce que nous sommes censés être. Il y a d'autres tactiques que l'adversaire va utiliser. Mais j'aimerais maintenant surtout pointer dans les minutes qui nous restent à savoir ce que Dieu pense comme étant de la plus haute importance. Savoir ce que Dieu pense est de la plus haute importance. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans des situations de stress? Qu'est-ce que Dieu nous dit lorsque nous tombons? Qu'est-ce que Dieu nous dit lorsque nous sommes bouleversés? Regardons d'abord le psaume 91. Psaume 91. Dans tout ça, notre vulnérabilité, Dieu la comprend. Et Dieu nous offre non pas d'aller nous cacher loin de Dieu, mais d'aller nous cacher en lui. Autrement dit, il connaît notre faiblesse émotionnelle, il connaît notre faiblesse de pensée et dit, ne panique pas mon enfant, viens me voir. Reportons-nous donc, psaume 91. Regardez le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau là. Oui, parfois, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une entreprise, ça peut être nos propres désirs qui nous fait tomber dans le filet. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Frères et sœurs, si nos gouvernements savaient ça, je pense qu'ils prendraient d'autres sortes de mesures. Il te couvrira de ses plumes. N'est-ce pas incroyable? Il te couvrira de ses plumes, un peu comme hein, la poule couvre ses poussins. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse, et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Mais il faut, frères et sœurs, savoir l'importance de se réfugier en Dieu, l'importance d'aller chercher sa paix, sa présence, son importance. Un autre verset que je ne peux m'empêcher de vous partager, c'est Isaïe 49. Isaïe 49, verset 1. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Alors, oui, parfois, Dieu nous a appelés, Dieu nous a équipés, c'est bien. Mais regardez que non seulement Dieu peut nous donner l'efficacité de l'utilisation de sa parole. Mais, verset 2, deuxième partie, il m'a couvert. Et ici, c'est le même mot que lorsque Adam, dans le jardin, l'a utilisé pour une mauvaise part, lorsqu'il s'est caché. Ici, c'est qu'il m'a caché de l'ombre de sa main. D'ailleurs, il dit, il a fait de moi une flèche aiguë, donc il me rend efficace, mais il m'a caché dans son carquois. Alors, autrement dit, Dieu, dans un sens, nous protège, Dieu nous demande de se réfugier en lui, et c'est lui qui décide, dans un sens, quand est-ce qu'il sort la flèche et qu'il l'utilise. Nous sommes cachés comme une flèche dans son carquois. Nous sommes cachés jusqu'à temps qu'il nous utilise au bon moment, à sa façon, pour son bien. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. On peut mettre notre nom. Tu es mon serviteur, Bruno, en qui je me glorifierai. Tu es mon serviteur, Piaboé. Tu es mon serviteur, Josué. Tu es mon serviteur, Tim. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. On peut avoir un moment donné un sentiment de fatigue. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Et je me ressaisis en disant, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. On se réfugie, on va se cacher en Dieu parce qu'il aura le temps de nous dire, n'oublie pas que je suis celui qui te récompense. C'est moi qui va te bâtir, c'est moi qui va t'édifier. Donc, première pensée, allons nous cacher en Dieu. Deuxième pensée de Dieu qui nous offre, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 20. Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, n'oubliez pas qu'il nous a dit, gardez votre cœur. Des fois, notre cœur est alarmé. Qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie en Dieu. Si on a tombé, si on a péché, qu'est-ce qu'on fait? 1 Jean 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est beaucoup meilleur que l'adversaire pour nous connaître profondément. Je veux vous dire que l'adversaire connaît nos forces, il connaît nos faiblesses, mais il ne peut tolérer de s'intéresser aux motivations positives de notre cœur. Il n'a aucun intérêt. Notre amour pour Dieu, aucun intérêt. Mais Dieu, lui, connaît toutes choses. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces, mais il a planté en nous l'intérêt pour lui. Et regardez Matthieu maintenant 6:6. L'adversaire connaît beaucoup de choses de nous, mais il ne connaît pas vraiment le fond de nous. Dieu connaît ce fond de nous. Et regardez l'importance de cette intimité avec Dieu, de cette importance de s'ouvrir à notre Dieu, et nous pouvons le faire en toute sécurité. Je crois, frères et sœurs, que Dieu protège nos prières. Dieu protège nos moments d'intimité avec lui. Il nous couvre, il nous cache à l'ombre de ses ailes. C'est ce que nous confirme Jésus selon Matthieu 6:6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Autrement dit, montre le signal que c'est entre toi et ton Père, entre toi et Jésus-Christ. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Waouh, le voilà, nous y voici, nous sommes en intimité, nous sommes en protection, nous sommes là cœur à cœur. Et ton Père qui voit dans le secret a une intention, te le rendra, te récompensera, te rémunérera spirituellement. Et quelle est la grande récompense qui nous attend, ou plutôt, quel est le don gratuit que Dieu nous donne, la vie éternelle, et la grande récompense, c'est selon les œuvres qu'il veut produire en nous. Réflexion finale. Satan peut-il lire dans nos pensées? Non. Mais c'est un adversaire redoutable. C'est à nous d'être conscients de cette méthode et de cette tactique. Au lieu de craindre que Satan puisse lire dans nos pensées, considérons la réalité quotidienne qu'il essaiera d'influencer nos pensées. Lorsque nous reconnaissons cela, alors nous pouvons continuer, je pense que nous sommes sur cette voie-là, à veiller sur chacune des pensées qui viennent à notre esprit. Plus celles-ci sont intenses et sont chargées émotionnellement de doute, de sentiments d'infériorité, de rejet, de peur des autres, de jalousie, d'envie, de rancune, de sentiments d'injustice, plus ces pensées veulent se manifester sous forme d'intention, de paroles et de gestes. C'est pourquoi il est si important de rechercher la pensée, la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à ce que nous choisissons comme source pour nourrir nos pensées et ce sur quoi nous consacrons notre temps et nos efforts. Souvenons-nous de la directive. Gardez votre cœur plus que tout. Gardez votre cœur car c'est configuré une défense que Satan ne peut pas percer. Bien qu'il ne puisse pas lire nos pensées, si nous accueillons son influence hostile dans nos pensées, cela apparaîtra finalement dans nos émotions, dans nos décisions et dans nos actions. Alors, sous l'œil vigilant de notre Dieu et avec son aide, gardons notre cœur et notre esprit afin de surmonter les plans de l'ennemi. Et pour conclure, voyons la promesse de Dieu transmise par Paul dans la lettre aux Philippiens 4. Lettre aux Philippiens 4. Je remercie Jésus-Christ, je remercie Dieu, je remercie l'Esprit que Dieu nous a donné. Ce verset-là est la réponse à la question que le Père donne à son Fils. Garde ton cœur plus que tout est la réponse à comment le faire. Que votre douceur, Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Hey, ça serait le fun d'être connu, hein, pour notre douceur. Oui, parfois, on a une bouche très précise. Oui, parfois, on peut apporter une parole de Dieu très précise. Mais ce qui doit nous faire connaître, c'est notre douceur. Le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, hein, faites connaître vos besoins à Dieu, ayez cette intimité par des prières et des supplications, avec bien sûr reconnaissance, action de grâce. Et regardez verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est une promesse, frères et sœurs. Si nous voulons garder nos cœurs, cherchons la paix de Dieu, cherchons la façon de Dieu. Cherchons la douceur de Dieu. Cherchons à ne pas s'inquiéter. Cherchons à s'approcher de lui. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne fin de sabbat, frères et sœurs. Nous aurons le plaisir de fraterniser avec vous et nous aurons, bien sûr, quelques temps pour retrouver certains d'entre vous.